Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Comment développer sa confiance en soi? C'est notre thème du jour. Quel chemin suivre sans tomber dans le contentement de soi, la vanité ou l'arrogance? Comment expliquer cette capacité mystérieuse qu'ont certains à porter sur eux un regard positif? Élément de réponse avec le professeur de philosophie Charles Pépin, mes complices du jour, Éric Libiot et Guillemette Audicino. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebi.
Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Philosophe romancier né en 1973. Les garçons et les filles de 1973 ont à mes yeux un petit quelque chose en plus. Hein, vous êtes d'accord avec moi?
Mais c'est la chanson de Vincent Delerme que vous avez.
Exactement, hein, bien sûr. Vous connaissez un très grand succès en librairie avec la confiance en soi, une philosophie. Vous devez sacrément avoir confiance en vous là en ce moment.
Pas tant que ça. La manière dont je définis la confiance, c'est pas être sûr de soi. Hein. C'est pas l'arrogance, c'est plutôt une manière de faire avec son doute et de faire avec l'incertitude. Et donc, en ce sens-là, oui.
Alors, pour bien comprendre ce qu'est la confiance en soi, vous prenez l'exemple de cette fillette de 4 ans à qui on a retiré les 4 petites roues de son vélo. Qu'est-ce qui fait que cette fillette que vous décrivez au début de votre livre, elle prend confiance en elle?
Je pense que c'est d'abord... la confiance qu'elle a en son père, enfin ça pourrait être sa mère, hein, mais dans l'exemple c'est son père, qui la rassure, qui la met en confiance, qui l'aime au fond, et qui ensuite, au moment où il enlève les roues, lui fait confiance. Donc distinction importante entre mettre en confiance, sécuriser, et faire confiance, c'est-à-dire insécuriser. Je pense que dans toute confiance en soi, il y a ce double mouvement, ce que j'appelle dans mon livre la valse à deux temps. Donc ça c'est la première dimension de sa confiance, c'est la confiance relationnelle. Ça s'articule évidemment à une deuxième dimension qui est la confiance technique. Elle a appris à pédaler, à tenir le guidon et à pas le lâcher. Ça fait deux. Et puis surtout, et c'est ça qui m'intéresse à la limite le plus, il y a une autre confiance, une troisième dimension qui éclate dans sa joie de vivre, et qui est la confiance en la vie, et c'est-à-dire une confiance tout court. Vous voyez, c'est pas une confiance en soi, c'est pas une confiance en les autres, c'est juste la confiance.
Pourquoi la confiance en soi entretient des liens très intimes avec la joie et avec l'enfance?
Ah, c'est une belle question. Parce que la joie, vous savez, c'est pas la joie d'avoir réussi ceci ou cela, ça c'est la satisfaction. C'est pas la joie d'être reconnu socialement, ça c'est narcissique. La joie, c'est juste la joie de vivre, d'être vivant alors qu'on aurait pu ne pas l'être. Et la confiance, au fond, c'est la confiance en la vie. Donc en fait, je pense que c'est la même chose. Et que chaque instant de joie est le meilleur booster pour la confiance en soi.
Mais il est difficile de conserver cette joie enfantine, cette confiance en soi face aux vicissitudes et aux déceptions de la vie.
Oui, vous avez raison. Et il faut d'ailleurs reconnaître que c'est dur et que la différence avec l'enfance, c'est que nous, adultes, nous mesurons mieux les risques de nos comportements, les conséquences négatives sur nous et sur les autres. Ce qu'il faut bien dire aux gens, c'est que l'anxiété est une forme d'intelligence. Et on n'a pas à en avoir honte. L'enfant ne sait pas que s'il tombe, il va s'égratigner, que c'est le début de l'été, que ça va lui piquer tout l'été à la plage. Et son père ou sa mère le sait. Donc en fait, tout l'enjeu de la confiance en soi, c'est de garder cette innocence de l'enfance avec un esprit d'adulte, c'est-à-dire responsable. Et c'est ça qui s'apprend, évidemment, notamment en développant à la fois une dimension de savoir-faire et aussi une dimension de confiance en l'autre.
Ce que vous montrez très bien dans votre ouvrage, c'est que pour parvenir à la confiance en soi, 1000 chemins possibles.
Oui, exactement. Il y a beaucoup de chemins, mais qui vont tous au même endroit. Alors, il y a un chemin, qu'il faut quand même dire les choses, commencer par le commencement, il y a un chemin de maîtrise. Mais ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que si on développe la maîtrise pour avoir confiance en soi, en pensant que la confiance se réduit à la compétence, on va droit dans le mur, parce que la vie nous surprendra toujours. Donc en fait, il faut développer une maîtrise en sachant que sur ce chemin, le but est d'accepter l'immaîtrise. Il faut développer une maîtrise qui confine à une forme d'abandon, c'est-à-dire aussi de lâcher prise et de présence à soi. Ça, c'est le premier chemin. Mais il y a un deuxième chemin qui, au fond, n'a rien à voir, qui est le chemin purement relationnel. Il faut aller vers les gens qui vont nous mettre en confiance et nous faire confiance, qui vont nous sécuriser et nous insécuriser en même temps, ce que j'appelle les liens qui libèrent. Mais tout ça mène au même endroit. Et c'est cet endroit qui, au fond, est mystique, qui est mystérieux ou métaphysique. C'est qu'à un moment, j'ai pas confiance qu'en ma compétence ou qu'en mes proches, mais j'ai confiance en la vie, en Dieu, en le monde, en la chance, en l'instant, en la beauté. En fait, je ne sais pas en quoi. Et je crois, et c'est un peu bizarre comme thèse, je en conviens, que la vraie confiance en soi n'est pas une confiance en soi.
Pourquoi est-il devenu aussi compliqué d'avoir confiance en soi, de construire cette confiance? Pourquoi?
C'est une question dure. D'abord, il faut quand même préciser qu'on ne nous a pas toujours demandé d'avoir confiance. C'est un idéal moderne qui va avec la démocratie. Je vous rappelle qu'à l'époque, enfin, il y a 3-4 siècles ou plus, les individus n'étaient pas invités à avoir confiance en eux. Ils naissaient là où ils allaient mourir, ils ne pouvaient pas changer de milieu social, ils ne pouvaient pas faire de métier autre que celui de leurs parents. Et en plus, il fallait écouter les anciens. Donc la confiance en soi est un idéal moderne. Mais le paradoxe, c'est que cette modernité, et c'est votre question, nous retire en même temps beaucoup du sol sur lequel pouvait se fonder cette confiance. Et je prendrai 3 exemples. On n'a plus de contact avec le faire le plus élémentaire. On ne se chauffe plus en coupant des bûches. On fait plus de feu chez soi. On fait beaucoup moins de choses concrètes. Tout est dématérialisé et on est un peu déconnecté du faire le plus élémentaire. Or, vous savez, ça met incroyablement en confiance de faire quelque chose de ses mains et de voir un résultat concret, direct, que les autres peuvent aussi observer de leurs yeux. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un drame aussi, c'est le problème de la comparaison diffusée par les réseaux sociaux. C'est absolument nouveau. Nos parents, nos grands-parents ne pouvaient pas se faire autant de mal à, du fond de leur fauteuil, à faire défiler sur leur smartphone les images du triomphe des autres, du bonheur des autres, de la vie rêvée des autres. Et là, ça, c'est très violent. C'est un poison pour la confiance en soi. Il y a une antidote, qui est, je crois, la connaissance de soi. Si je sais qui je suis, si je sais à quoi j'aspire, si je me connais assez, en ayant fait par exemple une analyse, pour savoir quel est mon désir, je serai moins meurtri, moins agressé et moins attaqué dans ma confiance en moi par le poison de la comparaison.
Petite question de terminologie, on évoque souvent ici dans cette émission l'estime de soi. C'est quoi la différence avec la confiance en soi ?
Alors, l'estime de soi, c'est... Ça n'impacte pas l'action. C'est le regard, c'est comment je me juge en termes de valeur, comment je m'estime. Mais la confiance en soi, c'est le passage à l'acte. C'est la capacité à réussir à s'aventurer à l'extérieur malgré le doute et l'incertitude. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que le rapport est pas du tout direct. Il y a des gens qui ont une très faible estime d'eux-mêmes, mais qui y vont parce qu'ils s'en foutent, ils passent à l'acte. En fait, ils ont confiance en eux, mais ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Et il y a des gens qui ont une très forte estime d'eux-mêmes, mais pour la garder, ils ne passent pas à l'acte. Et donc, ils n'ont pas confiance en eux. Et moi, mon livre, il s'appelle « La confiance en soi ». Et donc c'est quand même un livre de philosophie, donc j'ai délimité un objet et je m'y suis tenu. Je ne parle pas d'estime de soi, j'ai évacué la question. Je m'intéresse simplement aux conditions à mettre en œuvre pour que quelqu'un sorte de lui-même et s'aventure dans le dehors.
Il y a un autre philosophe qui a écrit un ouvrage qui s'appelait « La confiance en soi », philosophe américain du 19e siècle, Emerson.
Oui, c'est d'ailleurs le seul à avoir assumé la question directement. C'est un auteur dont je m'inspire, mais avec lequel je prends aussi beaucoup de distance. D'abord, ce que je salue en lui, c'est une idée magnifique selon laquelle la confiance en soi vient souvent du reste du monde, et notamment de la beauté du monde. Ça, c'est un conseil qu'il faut rappeler à chacun. Si vous n'avez pas confiance en vous, allez vous promener au bord de la mer et laissez le monde rentrer en vous. C'est très énigmatique, je ne pourrais pas tellement vous dire pourquoi, mais la beauté du monde et de la nature a parfois le pouvoir de me donner la force qui me manque. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec Emerson sur un point, et quasiment ma thèse s'oppose à la sienne, c'est que pour lui, avoir confiance en soi, c'est se convaincre qu'il y a au fond de chacun une sorte de joyau, de bijou, qu'il n'y aurait qu'à extérioriser, à faire sortir. Je pense bien au contraire, en m'appuyant sur Hegel, sur Sartre, que la confiance en soi ne peut se conquérir que dans l'action, dans l'intersubjectivité, dans les liens que je vais tisser avec les autres, et que c'est pas en moi qu'il y a un joyau à extérioriser, c'est hors de moi qu'il y a à conquérir ma vérité.
On va y revenir tout à l'heure. Bonjour Chrissie Lapelle-Edouel.
Bonjour Annie.
Journaliste à Psychologie Magazine, experte éclairée de l'émission qu'on aime beaucoup. Les ouvrages consacrés à la confiance en soi pullulent en librairie. Le bon côtoie le beaucoup moins bon.
Oh mais c'est formidable. Moi j'ai relevé dans un petit tour très rapide une dizaine de livres dans ma bibliothèque sur la confiance en soi. Alors, je vous donne quelques titres. Hein, la confiance en soi pour les nuls. 50 questions sur la confiance en soi, 5 clés pour trouver la confiance en soi, se faire confiance, mais je pourrais continuer comme ça à l'infini. Alors évidemment, quand j'ai reçu le livre de Charles, que je connais bien, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Pourquoi un de plus ? Mais enfin bon, le connaissant, je me suis dit que ça serait sans doute pas un how-to.
Et comment faire ?
Ouais, comment faire, en bon français, et mode d'emploi. Et ben j'ai eu raison, parce que son livre, évidemment, est tout sauf ça, et c'est un appui pour réfléchir. Et je pense, Charles, que votre livre est aussi un moyen de trouver la confiance en soi à l'extérieur, en s'appuyant sur ce que vous dites, parce que c'est vrai. Alors moi, il y a une chose vraiment qui m'a charmée dans le livre, c'est ce que vous dites à propos justement de la beauté que vous venez d'évoquer. Ça me paraît être une dimension absolument essentielle et trop souvent évacuer la manière dont la beauté peut nous nourrir. Alors, Vous parlez de la beauté du monde, mais ça peut être la beauté de la lecture, puisqu'on en parle souvent, la beauté de la littérature, la beauté de la musique, la beauté des relations avec les autres, la beauté des enfants, la beauté de la contemplation. Et ça revitalise ce qui est le plus vivant en nous, et donc nous donne confiance pour avancer.
Charles Pépin, ce n'est pas un ouvrage donc de développement personnel. En tout cas, vous avez puisé à diverses sources hein, pour l'écrire ce livre.
Oui, enfin, la première source est quand même la philosophie. Oui. C'est-à-dire que il faut rappeler aux gens, c'est pas évident, que le geste inaugural de la philosophie est une invitation à la confiance en soi. Quand vous avez Socrate qui est sommé par ses disciples de délivrer une réponse et qu'il leur dit « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien », ça veut dire « je vais vous délivrer de vos inhibitions, mais je ne vais pas vous délivrer le savoir ». Ça veut dire en gros « je vous fais confiance ».
Allez-y.
Le savoir est en vous. Quand vous avez Descartes qui écrit les méditations métaphysiques et qui dit « suivez-moi », on va douter de tout, on va remettre en question tout, on va ne se reposer que sur son sens critique, que sur sa raison. Ça veut dire faites-vous confiance. Je pourrais continuer longtemps, mais je vois que j'ai pas le temps. Mais juste un exemple quand même. Les philosophes des Lumières, Kant, Diderot, qui disent, c'est la phrase de Kant, c'est l'idéal des Lumières. Ose écouter ton entendement. Pas les anciens, pas les traditions, pas les sachants. Ton entendement. Eh ben, ça, en fait, en fond, je le savais pas avant d'écrire ce livre. Que je me le disais pas comme ça. Et pourtant, moi, j'enseigne depuis 20 ans, et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'adore dans la philosophie, c'est cette pratique de la confiance, justement.
Mais si on va prendre le temps de prendre son temps pour comprendre ce qu'est la confiance en soi avec Charles Pépin, Alexia Rivière, Théo Denmat et Manon Rax m'ont aidé à préparer cette émission, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Oh.
Earth, Wind and Fire, interprété Let's Groove.
Je sais pas dire non, mais même au sondage téléphonique. Hein.
Grand bien vous fasse.
Bon, et puis les hommes, bah, j'ose jamais dire non. Alors forcément, bah, je couche avec tout le monde.
Merci Adèle. Merci Adèle.
Sur France Inter.
Comment développer sa confiance en soi avec le très dissipé philosophe Charles Pépin hors antenne et avec également la complicité de la non moins dissipée Christine Appelé-Douel et également Éric Libiot et Guillemette Audicino. Je vous propose d'écouter l'écrivain Christian Bobin sur la confiance en soi.
Parce que c'est le soubassement de cette vie. Et il faut bien qu'il y ait un sol sur lequel marcher. Et parfois cette terre... La terre physique, la terre matérielle, mais aussi la terre psychique s'effondre ou se lézarde. Et il y a un sol dessous le sol. Et ce soubassement, me semble-t-il, c'est la confiance. Je ne saurais dire en quoi ou en qui. Et peut-être c'est plus prudent de ne pas dire en quoi ou en qui. De ne pas fermer avec des définitions ou des mots, ou même un visage. Ce dont je peux juste témoigner, c'est que traversant des... Comme chacun de nous, traversant à certains moments des zones non tempérées, affrontant des pluies, des grêles ou le feu, j'ai malgré tout gardé cette confiance dans une réouverture des portes, dans un retour du ciel, de l'air. C'est une sorte de tranquillité un peu étrange.
L'écrivain Christian Bobin sur France Culture en 2013, Charles Pépin, sur ces quelques mots lumineux de Bobin.
Vous savez, j'adore ce qu'il a dit. D'ailleurs, j'ouvre mon dernier chapitre par la référence à Christian Bobin. Et vous savez, il finit sur le sol et l'air, mais enfin sur le ciel et l'air, et en fait, il commence sur le sol. Et c'est très important de comprendre ce qu'il entend par sol. C'est-à-dire que il s'agit pas de conquérir la confiance en soi. Il s'agit de retrouver un sol qu'on a toujours eu, mais qu'on a pu perdre à l'occasion de blessures et de drames ou même de fragilités. Quel est ce sol? En fait, c'est juste qu'on est vivant. On est né un jour, on a été confié au monde, et on a en retour une confiance originaire en ce monde. Autrement, on ne peut pas vivre. Être vivant, c'est avoir une confiance minimale en la vie. Toute la question, c'est de la retrouver. Et au fond, ce qu'il dit est très beau, parce qu'il dit il faut pas répondre à la question en quoi j'ai confiance. Et c'est tout le contraire de l'injonction d'aujourd'hui où on dit tu vas développer ta compétence jusqu'à être sûr de toi. La vraie confiance, c'est davantage cet abandon au mystère de la vie.
Christine Appelé-Douel.
Oui, c'est l'abandon, c'est alors ce que le développement personnel appellerait le laisser aller, que je ne veux pas du tout employer, mais je l'ai quand même dit, tant pis, mais c'est quand même ce qui traîne en ce moment. Il y a quelque chose de l'ordre, en effet, de s'abandonner, j'aime bien cette idée de s'abandonner comme on s'abandonne dans la mer, en se laissant porter justement par le fait qu'on va flotter, là aussi c'est un laisser aller de la confiance, et on peut employer cette image. Et puis il y a quelque chose dans la confiance qu'on disait tout à l'heure, dans le souffle de la vie, le pneuma des
mais
Grecs.
Alors attention, il faut pas qu'on aille trop loin dans cette direction, parce que votre exemple de la mer est bon. Si vous ne savez pas nager, vous n'allez pas vous laisser aller et vous laisser porter.
Absolument.
Et donc je pense qu'il y a aussi une condition première, qui est d'avoir un savoir-faire minimal. Et il y a une phrase de Husserl que j'aime bien qui dit toute conscience est conscience de quelque chose. Et je la déplace un peu et je dis toute confiance est confiance en soi, sachant faire quelque chose. Donc il faut avoir une petite compétence, un savoir-faire, et à partir de là, on a le terrain possible pour le lâcher prise et l'abandon. Et donc il y a toute une dialectique de la maîtrise et de l'immaîtrise. Ce que j'appelle la valse à deux temps dans mon livre.
C'est vrai pour les adultes ou pour les enfants un peu grands, mais c'est pas vrai du tout pour les enfants petits. Les enfants petits ont une confiance totale, un abandon absolu, et ils se laissent totalement aller.
Oui, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi? Parce que le regard des autres est extrêmement bienveillant.
Bien sûr,
à leur regard. Jamais personne ne va dire à un enfant t'es un loser parce que t'arrives pas à marcher. Rappelons juste en un mot que la confiance en soi, dans l'histoire de l'individu, est d'abord un cadeau qui vient des autres.
Exactement. Alors pour développer sa confiance en soi, il est essentiel de cultiver les bons liens, et ça se joue dès les premières années. Le psychiatre Boris Cyrulnik met bien en lumière l'importance des interactions précoces afin d'acquérir une sécurité intérieure, qui est le terreau de la confiance en soi.
Oui, il faut une sécurité intérieure pour s'aventurer à l'extérieur. Et il faut se rassurer dans la zone de confort, dans la chaleur, dans l'amour, dans la répétition, dans la connaissance, dans la maîtrise. Mais attention, pour oser l'immaîtrise, pour oser sortir de la zone de confort. Toujours la métaphore hein, de la valse à deux temps, un temps pour se rassurer, un temps pour sortir de la zone de confort. Ce qui veut dire quand même que nous parents, nous éducateurs, nous professeurs, nous amis, nous devons bien nous rappeler de ça. Si on veut donner confiance à quelqu'un, il faut le mettre en confiance, puis lui confier une mission, une responsabilité, le sécuriser, puis l'insécuriser. Et puis après, il y aura un aller-retour. Et ce qu'il faut quand même dire par rapport à la référence à Cyrulnik sur laquelle j'ouvre mon livre, c'est qu'en fait, en fonction de l'enfance qu'on a eue, on aura plus ou moins besoin souvent d'aller se rassurer dans la zone de confort. Si on a été très bien accueilli dans la vie, on aura moins besoin d'aller souvent se rassurer dans la maîtrise. Et si en revanche, on a manqué de cette sécurité intérieure, on aura plus souvent besoin. Conclusion, il faut se connaître. Il faut savoir quelle enfance on a eue, si on veut gagner en confiance en soi.
Et la qualité de l'attachement est fondamentale pour développer donc cette confiance en soi. On peut prendre l'exemple de l'enfant sauvage de Truffaut, qui met en scène le jeune Victor de l'Aveyron.
Il pourra jamais avoir confiance parce qu'il n'a pas été assez attaché à l'humanité par les liens au début, puisqu'il a été abandonné et que ce sont des animaux qui l'ont élevé en quelque sorte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être attaché pour pouvoir se détacher. Si vous avez un enfant, par exemple, de 3 ans qui est chez lui, et puis il y a un inconnu, un ami de ses parents qui arrive, qu'est-ce qui fait qu'il va... Il y a deux types d'enfants, celui qui va aller jouer tout seul et ne pas regarder l'autre, ne pas lui parler, voire fuir au fond du couloir, et puis l'enfant qui va vers l'inconnu pour lui parler, le toucher, il est curieux. Et en fait, pourquoi il réussit à se détacher de ses parents pour aller vers l'inconnu? Parce qu'il a été bien attaché à l'humanité par de l'amour, ou alors même, pas nécessairement de l'amour, ça peut être de la bienveillance, ça peut être de l'attention, du soin. Et c'est ça qui est compliqué. Nous, les humains, nous sommes libérés par des liens, en fait. C'est une métaphore, d'ailleurs, que prend Christian Bobin, que je trouve très belle. Vous avez un petit enfant qui sort de son bain, et vous le prenez, et vous le mettez dans un drap de bain, une serviette, et vous le frottez, et vous le réchauffez, vous le rassurez. Eh bien, ce drap de bain symbolise les liens, au fond, qui libèrent.
Et d'ailleurs, Boris Cyrulnik décrit dans ses premiers livres que les bébés délaissés, pas caressés, pas choyés, privés de chaleur, chaleur maternelle, ben, dépérissent, et donc, ont peu de chances d'avoir confiance en eux.
Attention, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont manqué de ça
et qui ont été résilients, évidemment, plus tard,
avec à l'adolescence, avec des professeurs, des maîtres, des amis, des amants. Voilà.
Exemple avec Laurence qui nous envoie un courriel. J'ai longtemps manqué de confiance en moi. J'ai été rabaissé étant enfant. Ce qui m'a permis d'évoluer, ce sont des rencontres et un travail sur moi. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Je me sens bien. Je suis conscient de ce dont je suis capable ou pas. Je suis mieux dans ma peau et je ne me juge plus avec autant de sévérité. Bonjour Peggy.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors, vous n'avez pas vraiment confiance en vous en ce moment. Ça se traduit comment dans votre vie quotidienne ?
Déjà, pour rebondir sur ce que disait votre invité, j'ai eu cette enfance ballottée où il n'y a pas eu de bienveillance autour de moi. Et actuellement, à 42 ans, je suis... j'ai peur de tout. J'ai pas du tout confiance en moi. Et c'est un vrai challenge au quotidien, ce qui fait que j'ai effectivement une zone de confort qui est chez moi, où je n'en sors pas.
Et c'est né dans l'enfance, Peggy, cette absence de confiance en vous ?
Oui, parce que une famille disloquée, une maman qui ne s'occupait pas de moi, qui ne me suivait pas dans ma scolarité, une ballottée en famille d'accueil, donc pas rassurée par les adultes autour de moi. Je voyais beaucoup d'adultes, mais pas de bienveillance qui m'ont permis de me construire et d'avoir une assurance plus tard pour envisager les choses.
Y a-t-il eu tout de même des moments dans votre vie où vous avez eu confiance en vous ?
Oui, il y a une période où, ça a duré très peu de temps, 3-4 ans, où je me suis retrouvée à faire des photos lors de concerts et je sais pas, quelque chose qui se dégageait de toute cette ambiance, d'une énergie, de la foule autour de moi, quelque chose de positif, et je me suis raccrochée à ça. Et bon, j'ai eu quelques soucis de santé, j'ai dû abandonner cette activité, et j'ai perdu cette confiance en moi. Actuellement, quand j'envoie ces photos, je suis étonnée que ce soit moi qui les ai faites. J'arrive pas à me rendre compte que ce soit moi qui ai agi de la sorte.
Témoignage très touchant de Peggy, Charles Pépin.
Vous savez, Peggy, quand on entend ce que vous dites de la façon dont vous avez pris des photos et dont ça vous a donné confiance, on comprend vraiment ce qui se passe. D'abord, vous faites quelque chose quand vous prenez des photos. Le simple fait de faire quelque chose et de le faire bien suffit à réapprendre à se faire confiance. Ensuite, vous êtes avec les autres et donc vous êtes dans une relation, c'est la foule du concert, et puis évidemment, il y a quelque chose de vivant puisque c'est de la musique et c'est de la joie partagée. Et donc moi, je me permettrai pas de vous donner un conseil, surtout que je suis pas thérapeute, moi je suis juste philosophe, mais quand même, il me semble que votre zone de confort ne peut pas être simplement chez vous et que il faut retrouver cette activité. Je dirais pas tout de suite aller vers des liens qui vont libérer, parce que quand on est dans l'anxiété, comme c'est votre cas, c'est trop dur d'aller chercher du lien et le regard des autres. En revanche, il faut développer quelque chose de l'ordre du savoir-faire, d'une pratique. Et ça commence comme ça, la confiance. Autant je dis la confiance en soi n'est pas simplement la confiance en soi, mais elle est toujours d'abord la confiance en soi faisant quelque chose. Voilà, nous sommes faits, nous les humains, pour faire. Notre main prolonge notre esprit, comme disait Aristote.
Christine Appel-Edouard.
Oui, ce que vient de dire Peggy à l'instant indique tout de même, Peggy, une petite confiance en soi qui est comme une petite flamme, c'est le fait que vous ayez eu le courage d'appeler et le courage de parler, de nous parler et d'échanger avec Charles. Et ça indique qu'il y a tout de même quelque chose à développer. Donc vous pouvez prendre appui là-dessus pour développer davantage de choses. C'était pas évident de le faire.
Peggy ?
Je suis actuellement très stressée. Bonne demi-heure.
Et vous l'avez fait.
Enfin, vous avez dans votre voix une certaine assurance, je trouve, et une pointe de joie, enfin de vitalité. Donc, je suis pas sûr que vous soyez si stressée que ça.
Merci beaucoup, Peggy.
Je vous en prie.
Grand bien vous fasse.
T'es au courant, demain, on doit rendre un exposé devant toute la classe.
Moi, je pourrais pas, demain, là, j'ai une maladie incurable.
À lire EBI.
Tu veux, on prend le métro ensemble.
Non, bah là, j'ai mon poney qui est garé en double fil, ça va être compliqué, il m'attend et il faut que j'aille.
Sur France Inter.
Extrait de Like a Virgin de Madonna, Charles Pépin, il n'est jamais trop tard pour acquérir une confiance en soi. Quand enfant, on n'a pas pu nouer des relations qui forgent cette confiance. Ouais. Exemple avec Madonna. Exemple avec Madonna que vous donnez dans votre ouvrage.
Et que je donne même au début de mon ouvrage. Je commence le livre par Madonna. Alors, rappelons un peu les choses parce que c'est très éclairant. Madonna, sa mère est morte quand elle avait 5 ans. Son père s'est remarié tout de suite. Il a fait d'autres enfants. Elle n'a pas trouvé sa place. Jusqu'à l'âge de 10 ans, elle est inhibée, elle est timide. Et pourtant, elle est compétente en piano et en danse. Preuve que la compétence ne suffit pas à donner confiance. Et alors, elle rencontre son prof de danse, dont j'ai malheureusement oublié le nom à l'instant présent, Christopher quelque chose, je crois, et dans une école privée catholique. Et en fait, il y a le ballet de fin d'année qui, chaque fois, est un peu pourri, un peu conformiste, les parents s'ennuient, etc. Et là, il fait quelque chose. D'abord, il la met en confiance.
Christopher Flynn.
Christopher Flynn, voilà. Et il lui dit des choses qu'on lui a jamais dites. À quel point elle est originale, singulière, charismatique. Et puis après, on revient sur le truc. Il lui dit, tu sais quoi, je te fais confiance, j'ai envie que ce soit différent, c'est ton soir. Et là, elle met le feu. Elle se révèle à elle-même. Louise Tichon devient Madonna ce soir-là. Alors évidemment, elle se déshabille. ça, c'est le début de Madonna. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est venu de l'autre. Mais simplement, il y avait quand même un sol de compétences premières. Mais la grâce relationnelle est venue dynamiser cette compétence et la muter en confiance.
Que doivent faire les parents, les amis, les enseignants, les maîtres pour donner confiance ? Mettre en confiance et faire confiance ?
Oui, et surtout trouver le bon timing pour passer de l'un à l'autre. Et c'est ça qui est dur, en fait. Moi, je donne pas de leçons, enfin, c'est très dur. Mais ce qui est sûr, c'est que si on fait confiance sans avoir mis en confiance, ça ne marchera pas. Et si on fait que mettre en confiance sans jamais confier de responsabilité, ça ne marchera pas. On voit souvent des gens en entreprise, des patrons, des managers qui disent « Ouais, lui, il a pas confiance en lui. » Alors qu'en fait, ils lui mettent pas en confiance, ils le rassurent pas et ils délèguent pas, ils veulent tout contrôler. Donc en fait, ce qu'il faut rappeler, et c'est la psychanalyste Anne Dufour-Mantel qui en parlait très bien, c'est et que souvent, les gens qui sont en crise d'anxiété, qui manquent de confiance en eux, quand on les voit sur les divans et qu'on les écoute, en fait, ils manquent pas de confiance en eux. Ils manquent de confiance en les autres. Ils n'ont pas eu la chance de rencontrer des autres qui les ont rassurés, sécurisés et surtout qui leur ont fait confiance.
Allez, il est temps de retrouver Guimet Odissino.
Mais regarde-toi.
bordel de Dieu. Réveille-toi. Tu te prépares une jolie notice nécrologique. Hein, mon petit Walter? Je suis malade. Ouais, bon. La vraie question, c'est... est-ce que tu veux réellement guérir? Réveille-toi! Qu'est-ce que tu vas faire, Walter?
Faire tout péter.
Gueule-le! Faire tout péter! Gueule-le! Faire tout péter! Tout ce putain d'édifice! Faire tout péter! Faire tout péter! Voilà! C'est ça, camarade! Tu fais tout péter et tu repars à zéro direct! Qui es-tu? Je suis le castor, Walter. Et je suis là pour sauver ta putain de vie.
Un film de Jodie Foster, Le complexe du castor avec Mel Gibson, s'est sorti en 2011.
Oui, absolument. Alors, c'était un film à l'époque dont tout Hollywood s'arrachait le scénario et c'était censé être une comédie. Et puis, c'est Jodie Foster qui s'en est emparée. Et puis surtout, c'était une comédie sur la dépression, certes, mais alors quand on engage Mel Gibson pour une comédie sur la dépression, du coup, c'est un peu moins une comédie et c'est un tout petit peu plus vu le type de garçon dont on parle avec Mel. C'est plus un film qui fait mal. Et où on se fait un peu mal aussi. Mel, dans un film, il faut absolument qu'il se fasse mal. On a l'impression qu'il a quand même perdu son temps. Alors, c'est l'histoire donc de Walter, qui alors n'a vraiment pas confiance en lui. Vous avez entendu, il y a un gros souci de dépression. Et la voix off le dit dès le début. La dépression de Walter est une encre qui tache tout ce qu'elle touche. Un trou noir qui engloutit quiconque l'approche. Je me suis dit qu'il faisait beau, qu'il n'y avait pas de raison que je ne vous gâche pas un petit peu le week-end avec un truc aussi gai. Alors si vous comptez ce week-end bronzer sur une balancelle, pensez quand même au trou noir qui vous guette, hein, chers amis. Vous avez entendu la musique de ce film, pourtant américain, un tango. Alors c'est drôle parce que c'est finalement aussi pas une valse à deux temps, mais un tango à deux temps. Parce que dans ce tango, il y a deux partenaires. Il y a donc Mel Gibson et sa peluche qu'il a mis sur son bras gauche. Il a trouvé une vieille peluche dans une poubelle. Il enfile cette peluche et elle va lui servir d'objet transitionnel. C'est la peluche qui va parler à sa place, c'est la peluche qui va avoir confiance à sa place, c'est la peluche qui va aborder le monde extérieur parce que lui, là, définitivement, il a un problème avec les autres. Même, ça va un peu prendre sa place dans le lit conjugal. Ça, c'est juste pour vous sous-entendre que ce film est quand même un petit peu étrange et que Jodie Foster fait quand même une drôle de gueule quand elle fait l'amour avec un castor. Bien. Alors, mais donc, il va sauver sa putain de vie. Tout de même, parce qu'il y aura un happy end, on est dans un tango à deux temps, mais on est quand même dans un film hollywoodien. Alors c'est une comédie noire, dérangeante, comme je vous l'ai dit, où tout le monde aimerait être quelqu'un d'autre, où tout le monde aimerait qu'on lui accorde un minimum de confiance. Y compris la jeune Jennifer Lawrence, qui dans ce film-là est encore une jeune fille toute ronde et toute blonde, et qui n'est pas encore devenue une méga star. Et alors, dans son personnage de jeune fille, elle trouve que tout ce qu'elle fait est merdique. Mais il y a un jeune homme qui trouve que tout ce qu'elle fait est magnifique. Et le jeune homme, lui, se trouve complètement merdique. Et elle le trouve merveilleux. Donc si vous avez de l'inconfiance et de l'intranquillité dans votre ADN, bah, comment faire avec ça? Alors vous cherchez dans la salle quelqu'un qui va vous soutenir, vous embrasser, vous pardonner, vous attendre, vous trouver magnifique. La plus belle confiance, c'est ce moment de beauté ou d'échange, ou bon sang, quelqu'un cesse de vous prendre pour une marionnette.
L'inconfiance, c'est un joli néologisme. Je suis pas sûr que ça existe, mais c'est un joli.
Ouais, c'est ce que je me disais.
C'est un très joli néologisme. Dans quelques instants, vous verrez que s'émerveiller et s'écouter, ça permet de développer sa confiance en soi. Comment développer sa confiance en soi? C'est notre thème du jour avec le philosophe Charles Pépin.
Souvenirs divers en moi. chacun mes souvenirs divers. En moi, les mois coulent telle rivière. L'espoir, laisse croître en nous la nuit. Dans son hiver, regarde, je gagne sur les divers. L'amour amour à tous mes
Clément Froissart, Amour Armure.
J'ai décidé que ce serait moi qui représenterais Rome.
Grand bien vous fasse.
Qui ? Moi ? Ben ouais, moi.
Ali Rebéi.
Mais c'est ridicule.
Pourquoi ?
Mais t'es incapable de te représenter toi-même.
Sur France Inter.
Comment développer sa confiance en soi avec le philosophe Charles Pépin qui publie La confiance en soi, une philosophie, avec la complicité des journalistes Christy Lapellé-Douel, Éric Libiot et Guillemette Audicino. Charles Pépin, développer sa confiance en soi, oui, mais comment ne pas sombrer dans le contentement de soi, la vanité, l'arrogance ?
Ben vous savez, il faut pas vouloir se débarrasser de la peur. Il faut pas vouloir se débarrasser du doute. Il faut juste réussir à y aller malgré la peur. Et malgré le doute un peu, comme ces bluesmen qui disent « je suis avec ma solitude », eh bien le confiant, il est avec sa peur, tout contre sa peur. Donc il n'y a aucun risque d'arrogance une fois qu'on l'a défini comme ça.
Pourquoi la beauté, l'émerveillement, ça permet de cultiver, de développer sa confiance en soi ?
Alors, d'abord, dans la beauté de la nature, il y a une première strate qui est que vous allez juger librement que c'est beau, sans dire c'est beau parce qu'il y a le nombre d'or dans la montagne. Vous dites c'est beau, vous vous écoutez. Donc déjà, ça donne confiance de savoir s'écouter. Et puis après, il y a sûrement quelque chose de plus, moi en tout cas j'y crois, de plus métaphysique. Il y a probablement une énergie dans le cosmos qui rentre en nous au moment où nous contemplons la beauté. Nous comprenons que ce monde est le nôtre au fond, que nous habitons ce monde. Qu'il n'est pas simplement quelque chose qu'il faut que j'exploite, que je rentabilise, que je possède. Il est ma maison. C'est aussi ce que montre, je crois, Cézanne dans sa peinture. C'est ce qu'on entend dans certaines musiques et ce qu'on contemple parfois dans la nature. Et vous savez, comment voulez-vous avoir confiance en vous, c'est-à-dire vous aventurer dans le monde, si vous ne pensez pas que ce monde est le vôtre ? Et c'est ce que je disais au début, on est né au monde, on a été confié au monde. Ce monde est le nôtre. Eh bien, la beauté nous le rappelle.
Christy Lapellé-Douel.
Oui. Ce que vous dites à propos des artistes, justement, vous parliez de Cézanne, c'est vraiment, ça me paraît tellement évident, tant d'artistes, de peintres en particulier, mais pas seulement, hein, n'avaient apparemment absolument aucune confiance en eux, et pourtant, ils ont osé franchir des barrières et s'affranchir des codes. Vous parliez de Cézanne, qui est un exemple parfait, mais on pourrait parler de Van Gogh et de bien d'autres. Et pourtant, ces personnes, quand on les voit, quand on regarde leur vie, c'est exactement l'inverse qui apparaît. Et ils ont eu cette force de franchir quelque chose.
Vous savez, pourquoi on a autant de reconnaissance par rapport aux artistes qui nous font du bien, aux chanteurs par exemple ? C'est le mot reconnaissance qui est fort. D'abord, on a de la gratitude, mais surtout, on reconnaît qu'ils nous parlent d'une vie qui est la nôtre. On reconnaît qu'ils nous peignent un monde qui est le nôtre. Et ça fait du bien de se sentir... enfin habitant du monde et pas simplement consommateur qui veut tout exploiter.
Guillemette Audicino.
Mais est-ce qu'on leur est pas aussi reconnaissant de nous montrer cette beauté ? C'est-à-dire, on se dit, il y a des gens sur Terre qui ont du talent, qui reconnaissent la beauté, qui la regardent. Enfin, il y a des gens bien. En fait, se dire, il y a des gens bien. L'artiste, c'est aussi quelqu'un qui nous dit, l'humanité est belle.
Mais bien sûr.
Pas que la nature.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis surtout, le doute est beau, parce que ces artistes ne font que douter. Donc vous voyez, ils ne sont pas arrogants. Ils nous montrent que c'est qu'avec la glaise du doute, on sculpte la confiance.
Alors vous écrivez à plusieurs reprises dans votre ouvrage que se faire confiance, c'est également s'écouter. Ça veut dire quoi exactement, s'écouter ?
C'est franchement une question dure. Parce qu'il ne faut pas croire que s'écouter, c'est écouter juste une part de soi, par exemple l'intuition sensible, j'aime pas le mot, c'est pas non plus intellectuel. Et c'est l'intuition, mais comprise comme le résultat d'une expérience et d'une maîtrise. Si vous êtes un médecin urgentiste et que vous devez agir dans l'urgence, dans le vacarme, il pleut, il y a un accident, il y a des gens qui vont mourir, et puis il y a des blessés très graves et des blessés très 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 graves. Eh ben, il ne va pas faire un tableau Excel et il ne va pas faire de prise de sang pour savoir qui soigne en premier. Il doit s'écouter. Eh bien, ça veut dire qu'il a incorporé une telle compétence que finalement, elle devient une forme de spontanéité. Alors, on n'est pas tous aussi compétents dans notre domaine, mais c'est ce chemin qu'on doit prendre. On doit développer un savoir-faire, mais en visant le retour d'une immédiateté. Et c'est ça, s'écouter.
Et pour vous, les rituels, les rites peuvent nous aider à cultiver cette écoute intérieure.
Ben évidemment, mais vous savez pourquoi ? Parce que le rite nous offre tout simplement un cadre dans lequel il est possible de s'écouter. Si on peut pas s'écouter, on est en retard, on est pressé, on est stressé, on est anxieux, on nous demande plein de choses. Eh bien, si je vais à la messe tous les dimanches, si je vais à la synagogue, si je fais Shabbat, si je vais chez le psychanalyste...
Comme vous
si... Shabbat ?
Non, le psychanalyste.
Oui, comme moi. Et Shabbat un peu aussi d'ailleurs. Et puis l'église aussi un peu, c'est compliqué, je vous en parlerai. Mais j'ai beaucoup de rites. Et vous savez, le rite est un temps pour soi. C'est dans Le Petit Prince, le renard qui dit au Petit Prince, parce qu'il n'est pas venu à l'heure prévue, il dit, tu sais, il faut des rites. Il faut des rites pour créer des moments de respiration dans une vie hâtive et pour apprendre à écouter son intuition.
Il faut des rites, mais également de l'action. Très souvent, la confiance vient de l'action. Prenons l'exemple que vous prenez dans votre livre, l'exemple de ce jeune homme, encore vierge, j'imagine, le jeune Éric Libiot, qui s'apprête à vivre une nuit d'amour, tremblant, la boule au ventre. Comment peut-il acquérir une confiance en soi ? Comment faire pour que ce manque de confiance en soi ne le paralyse plus
Comment faire pour éviter la panne qu'on est nombreux à avoir connue la première fois, évidemment. D'ailleurs, vous savez, le drame de ce jeune puceau, c'est s'il croit que c'est la maîtrise qui va le rendre confiant. Alors on lui a
c'est
dit comment
faire.
Ben bien sûr que non, parce que y a pas, la maîtrise, surtout la première fois, elle n'est pas possible. Alors le pire, c'est s'il est seul avec lui-même et qu'il pense que la confiance en soi, c'est la confiance en soi. Il va se dire, j'ai vu des films porno, mes potes m'ont raconté, etc. Et il essaye de le faire. Et du coup, il n'est pas avec elle. Il n'est pas dans la relation. Il n'est pas dans l'action. Il n'est pas dans la caresse. Alors que de quoi va venir sa confiance en vérité ? Même pas de la femme, de la relation. Et s'il lui dit la vérité, c'est beaucoup mieux. Il instaure ce climat de confiance. Et puis surtout, c'est en la touchant, c'est en la caressant. Et c'est à ce moment-là que la confiance vient. Surtout pas avant. Avant, ça peut pas marcher. C'est comme le comédien qui a le trac. Il va jamais régler la question du trac avant de monter sur scène. Eh ben, ça paraît, c'est très simple comme idée, mais il faut quand même le répéter. C'est le passage à l'acte qui libère et pas avant. On n'est pas libéré avant l'action.
Vous avez pris des notes, Éric Libiot ?
Oui, je comprends mieux le fiasco, du coup.
Bonjour André.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
On va conclure avec vous. Alors vous étiez très timide quand vous étiez jeune, c'était presque maladif.
J'étais excessivement timide. Alors moi, c'était un milieu très intellectuellement ouvert. Mon papa était enseignant, ma maman infirmière. Et je les remercie, c'était des bonnes personnes. Ils m'ont présenté... Bon, j'ai 64 ans, donc l'époque a évolué, bien sûr. Donc j'étais très très timide. Et ce qui m'a soulagée, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai une vingtaine d'années, j'ai fait du théâtre. J'ai eu l'occasion avec un camarade de prendre des cours. Mais ça a été une libération. Le jour où je suis arrivée à monter sur scène, à dire des textes de Queneau, mais franchement, quand j'ai entendu les applaudissements, j'étais libérée. Et ça m'a aidée. J'expliquais à vos interlocuteurs tout à l'heure, avant je ne pouvais plus, mes devoirs c'était un calvaire, j'apprenais mes leçons, on mettait sur une estrade, j'étais incapable de les ressortir. Donc là, vraiment, le théâtre, je trouve que c'est extraordinaire. Pour un enfant, ça libère et vraiment, il faudrait instaurer ça dans toutes les écoles.
Charles Pépin.
Oui, vous avez tout dit en disant, c'est en montant sur scène que je me suis libéré. Vous voyez, sur scène, c'est de l'action, il y a les autres, il y a l'énergie de la vie, il y a tout.
Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Ils
Charles Pépin, pourquoi cette chanson de France Gall, écrite par Michel Berger, est-elle pour vous un hymne à la confiance en soi?
Bah d'abord parce que le hasard a fait que quand j'ai envoyé mon livre par mail à l'éditeur, j'ai allumé la radio et je suis tombé dessus. France Gall était morte ce jour-là. Donc après, j'ai rajouté la conclusion du coup. Mais parce que il joue du piano debout à sa manière. Il est sur ses deux pieds, un pied dans la zone de confort, un pied pour en ressortir. Les trouillards sont à genoux, il n'ose pas y aller. Les soldats au garde-à-vous, soumis à la norme. Lui, il ose jouer d'une manière qui lui ressemble. Et c'est ça la confiance en soi, c'est pas vouloir être parfait, c'est pas vouloir être sûr de soi. Et je pense qu'on peut tous jouer du piano debout.
Charles Pépin, dans 6 mois, une météorite détruit la Terre de façon sûre et certaine. Que faites-vous en attendant?
Je profite.
En faisant quoi?
En passant du temps avec ceux que j'aime.
C'est beau. C'est bien de terminer comme ça avec vous, Charles Pépin. Charles Pépin, je recommande vraiment La confiance en soi, une philosophie. C'est publié chez Alary Éditions. Merci beaucoup, Christina Pelédoile, d'être venue. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Belle journée à l'écoute de France Inter.